Chers frères et sœurs, soyez les bienvenus en ce jour qui, finalement, dans une certaine mesure, en christianisme, est le jour du doute. Du moins, le fut-il dans ce premier samedi qui était coincé entre le vendredi de la crucifixion et ce dimanche qui n'était pas encore le dimanche, jour du Seigneur, jour de la résurrection. Jour du doute, jour de l'incertitude, car on imagine l'attitude dans laquelle sont les disciples qui viennent de perdre leur maître, qui se retrouvent seuls, abandonnés, livrés à eux-mêmes. Et cet entre-deux, c'est ce que nous vous proposons de vivre ce soir, entre vendredi saint et Pâques, une montée progressive vers ce dimanche de la résurrection. Et c'est la raison pour laquelle nous allons entreprendre ce premier moment avec trois psaumes qui partent tout d'abord de la profondeur de ce cri du cerf qui brame et qui est partagé, qui est divisé entre le désir de célébrer son Seigneur et puis cette angoisse qui le taraude. Alors je vous accueille avec ces sentiments contrastés, ces sentiments mitigés, à la fois ce cri dans cette espérance qui commence à sourdre à travers ce psaume 42 dont nous allons chanter les trois premières strophes, et je vous propose de vous lever pour chanter ce psaume 42. Le deuxième psaume que nous allons chanter est classiquement un psaume de deuil, le psaume 130, mieux connu sous son nom latin De Profundis, car ce sont les premiers mots de la traduction latine, nous disent finalement les mots et nous donnent cette mélodie qui permet de traverser le deuil en commençant par exprimer ce profond sentiment de détresse qui ensuite pourra nous orienter vers une aube, vers un jour nouveau qui se lève à nouveau sur ce temps de détresse. Et pour vivre toute cette dynamique du psaume 130, nous vous proposons de chanter les 4 strophes de ce psaume. Cette attente de l'aube du jour, on peut facilement imaginer ce que cela signifie quand on pense à ce que pouvait être l'attente, par exemple, de ces familles dont l'un des leurs était prisonnier en Syrie. Et on peut imaginer ce qu'est l'action de grâce qu'ils ont envie de lancer maintenant qu'ils sont libérés. Et on peut se dire que le psaume 116, dans sa version de Genève, donc le psaume 116b, sera peut-être pour certains l'occasion d'exprimer leur reconnaissance, de dire leur joie et de pouvoir se placer devant l'Éternel, non pas en imaginant une libération miraculeuse, mais en se disant que le cri lancé n'est pas resté sans écho. Et nous chantons donc les strophes 1, 2 et 3 de ce psaume 116 dans sa version de Genève, version B.
Thank you.
Cette interprétation de Jean-Dominique Pasquier sur le psaume 116 que nous venons de chanter nous sert de transition vers la partie cantique. La partie cantique à travers trois cantiques qui disent le Vendredi Saint. Trois cantiques à chanter et à entendre, non pas comme une contemplation morbide de la croix, mais comme Vincent Hubach nous le faisait entendre hier encore, comme l'occasion de voir poindre à travers cette violence, cette injustice, des éclats d'évangile, déjà des éclats de résurrection, d'un amour qui commence à surpasser la mort. Et donc, ce premier cantique 119, « Chef couvert de blessures » dont nous allons chanter les trois premières strophes, est une façon de rentrer dans cette dynamique de contemplation de la croix pour essayer d'y discerner déjà des germes de résurrection, et je vous propose de rester assis pour chanter ces cantiques. Ce déjà-là et pas encore de Pâques s'exprime également dans ce cantique 129. Contempler la splendeur sainte, la lumière auguste, c'est discerner par-delà la croix, cette promesse qui est en train de se réaliser. Et nous chanterons les strophes 1, 3 et 4. C'est dans l'Évangile selon Jean que je vous propose d'entendre quelques versets. Je vais les faire retentir, ces versets. Quelques versets qui nous remettent face à la croix, justement. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue : Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate : N'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit : Je suis roi des Juifs. Pilate répondit : Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Les soldats
après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent quatre parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. » Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture, « Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. » Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple la prit chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était consommé, dit afin que l'Écriture soit accomplie, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Chers frères et sœurs, convenez qu'il est assez curieux, et pour ma part je dirais même assez décevant, que Jésus sur la croix dise « J'ai soif ». Voilà, je trouve une parole qui n'a rien de très glorieux, qui n'a aucune superbe, en ce sens qu'elle ne révèle pas le secret ultime de la vie éternelle, la dernière confidence qui nous donnerait en quelque sorte accès au saint des saints de la révélation. Il y a, je trouve, quelque chose d'assez vulgaire, même dans cette déclaration de Jésus sur la croix, quelque chose d'affreusement commun, alors que nous serions en droit, je trouve, d'attendre quelque chose d'un peu extraordinaire à tout le moins, quelque chose de surnaturel peut-être dans l'ultima verba, la parole ultime du Christ. Mais voilà, une parole d'une banalité affligeante, je trouve, « J'ai soif ». Cette parole n'est pas dite par inadvertance, comme un oubli de soi, comme une sorte d'abandon aux pulsions les plus animales du moment. En effet, l'évangéliste, vous l'avez entendu, prend soin de relier cette parole au fait qu'il y a là, à ce moment précis, un accomplissement des Écritures, un accomplissement de la Torah, un accomplissement de l'enseignement divin pour notre humanité. Ainsi donc, j'ai soif. Eh bien, aussi consternante que soit cette phrase, qui tient en un seul mot, dipso en grec, eh bien, cette phrase, ce j'ai soif, est donc certainement pour Jésus une manière d'exprimer ce qui pour lui est l'essentiel de l'évangile à ce moment-là. C'est la raison pour laquelle cette parole vaut probablement mieux que le mépris qu'elle m'inspire. Alors, peut-être deux choses à entendre. Le premier enseignement est peut-être relatif à cette première impression, justement. « J'ai soif » est après tout une bonne manière d'interroger notre compréhension de la vie chrétienne. Elle vient peut-être mettre en procès nos idées sur ce qu'est être chrétien dans la vie de tous les jours. Et contre l'idée, peut-être, que la foi chrétienne serait une échappée hors du monde, du moins hors de ses souffrances, hors de ses vicissitudes et de ses contingences. Contre l'idée que le divin serait une sorte d'abstraction qui nous arracherait au chaos de la vie quotidienne, eh bien cette parole nous ramène précisément sur terre, dans le quotidien le plus absolu, le plus radical qui soit, dans le concret le plus strict, au cœur même des besoins fondamentaux, des besoins les plus physiologiques, les plus primaires. Et peut-être le premier enseignement à retirer de cette parole, c'est que la perspective chrétienne se dresse non pas dans un au-delà imaginaire, mais dans le concret le plus accessible qui soit, notre quotidien. Autrement dit, contre l'idée que le christianisme serait une sorte de pure spiritualité, une religion hors sol, une sorte de douce évanescence, tranquille, eh bien l'Évangile nous parle d'incarnation jusque sur la croix. Elle nous parle de chair, elle nous parle d'un corps dont il faut prendre soin. Et peut-être que dire « j'ai soif » à ce moment précis n'est finalement pas aussi grotesque qu'il est paraît. C'est peut-être une affirmation en forme d'authentique lapalissade, si nous nous souvenons que lapalisse n'était pas un enfonceur de portes ouvertes, mais un homme traversé d'une forte pulsion de vie, si bien que lorsque un quart d'heure avant sa mort il était encore en vie, ce n'est pas une sorte de calembour, mais une façon de dire qu'un quart d'heure avant sa vie, il était encore profondément vivant, entièrement traversé par cette énergie vitale qui faisait qu'il n'avait pas baissé les bras, mais qu'il exploitait encore à fond toutes les possibilités qu'il avait à sa disposition. Oui, il était encore parfaitement en vie, terriblement en vie, entièrement traversé par ce désir de vivre, alors que 15 minutes après, il passerait de vie à trépas. Il était encore là à en découdre avec l'existence. Il était encore là à faire valoir ses talents, son caractère, et Jésus de même sur la croix, alors qu'il sait qu'inexorablement, la fin s'approche. Eh bien, « j'ai soif » du coup devient l'expression de ce fort désir de vivre, en dépit des circonstances pour le moins contrariantes. Vivre malgré tout. Vivre malgré l'injustice qui s'abat irrésistiblement sur Jésus depuis le vendredi qui précède. Vivre malgré la violence que rien n'arrête, pas même le bon vouloir de Ponce Pilate. Vivre malgré ces pulsions de mort qui rythment tout le temps de la passion. Vivre vraiment malgré tout cela, et sans s'échapper dans un paradis artificiel, mais en réinvestissant le lieu où Dieu se tient véritablement, dans le temple qu'est notre corps. Outre cette foi incarnée, cette prise au sérieux des corps, ce que le christianisme n'a pas toujours fait dans son histoire, outre la prise au sérieux de l'individu affronté à son quotidien, eh bien cette parole peut avoir un deuxième bénéfice. C'est un bénéfice à retardement qui vaut pour le temps qui suit la mort en ce jour où commence la traversée du deuil, et je pense notamment à ses disciples de la première heure. C'est le bénéfice pour les disciples en deuil au sens large. Lorsque nous plongeons dans la mélancolie, lorsque nous sommes abattus par toute forme de dépression, lorsque nous n'avons plus aucune envie, plus aucun désir, que nous sommes comme anesthésiés. Comment se relever après tant d'injustices? Comment se relever après tant de cruauté? Comment se reconstituer? Comment relancer sa vie? Comment renouer, comment retricoter la vie? Comment ne pas baisser les bras définitivement? Comment sortir quelqu'un d'une crise morale, peut-être spirituelle, peut-être économique, politique? Comment renouer avec la vie? Comment donner envie de vivre à quelqu'un qui n'en a plus aucune envie? Cette question, je la pose autrement, peut-être aussi vulgairement que l'est ce mot de Jésus sur la croix, en m'interrogeant ainsi: comment faire boire un âne qui n'a pas soif? Eh bien, la réponse m'a été donnée un jour par un directeur de l'Institut national de recherche agronomique. Pour faire boire un âne qui n'a pas soif, en fait, c'est simple. Il suffit de conduire auprès de lui un âne qui a soif et qui va boire. Et en le voyant boire, l'âne qui n'a pas soif va se mettre à boire. C'est du mimétisme. Le mimétisme est le moteur de toute cette passion. René Girard l'a très bien montré dans ses études sur la violence collective, sur le bouc émissaire. Eh bien, face au mimétisme qui tue, qui réduit l'être à rien, Jésus oppose un mimétisme positif. Un mimétisme qui va inaugurer un cercle vertueux. Pendant ce sabbat qui sera pour les disciples de la première heure un double temps de désœuvrement, il y aura cette parole qui pourra retentir dans leur esprit. « J'ai soif ». Et peut-être eux aussi se mettront-ils à avoir soif. Et peut-être eux aussi mettront-ils leur désir dans les pas du désir de leur maître. Et du coup, ce « j'ai soif », aussi anodin que méprisable, devient peut-être une sorte de sésame. Un sésame capable de ressusciter chez les hommes, chez les femmes en mal de vivre, un appétit, une soif de vivre, un goût renouvelé pour la vie. J'ai soif. Une parole à mâchouiller pour ressusciter en nous le profond goût de la vie. Amen.
Alors voilà, à l'aube finalement du dimanche, eh bien, il y a les femmes qui étaient au pied de la croix qui vont à ce tombeau pour donc rechercher la mémoire du Christ, pour essayer de faire un embaumement. Et donc c'est déjà quelque chose qui est de l'ordre d'une soif dont James vient de parler, c'est-à-dire soif de faire mémoire de ce maître, de cette espérance qu'ils ont perdue. Et donc c'est ce cantique qui nous est proposé, « J'ai soif de ta présence », est un des cantiques préférés des personnes qui sont dans le deuil souvent, hein, c'est ce qui est chanté souvent pour des obsèques ou des temps difficiles de notre existence. Et donc il est finalement connu par cœur de bien des personnes. Donc nous pouvons maintenant chanter les trois strophes, donc du cantique 400 dans le petit recueil « Louanges et prières »,« J'ai soif de ta présence ». Levez. Alors maintenant, nous vous proposons de chanter le choral 24. Donc c'est à la fin du psautier français. On a ajouté, donc en supplément, des chorales luthériens. Alors, nous ne l'avons pas encore chanté tellement souvent, mais en fait, l'air de ce choral est bien connu, car ça s'appelle, même pour ceux qui ne connaissent pas l'allemand, Christ lag in Todesbanden, le Christ gisait dans les liens de la mort. C'est un cantique de Pâques, je veux dire, vraiment très célèbre. Il y a plein de chorales pour orgue, des chorales chantées, des cantiques sur cette air qui a été composée par Luther et les paroles également. Donc ce cantique qui chante la résurrection, chorale 24. Donc en fait, comme vous le voyez déjà sur les tableaux de cantiques pour demain matin, on va continuer à réviser ce choral 24 demain matin au cours du culte de Pâques. Donc on a commencé à un peu l'apprendre et ça va être formidable demain. Maintenant, le cantique 144, on reprend donc louange et prière, Jésus sort de la tombe. Alors là, je trouve que les paroles sont assez osées, car c'est vrai que dans les évangiles, on ne nous décrit pas Christ en train de ressusciter, en train de sortir de la tombe, comme si c'est finalement quelque chose qui arrivait à Jésus dont on pouvait parler, mais on voit toujours en fait le Christ apparaître à des personnes dans une expérience de foi. Donc là, pour une fois, nous avons en direct finalement Jésus en train de ressusciter et qui sort de la tombe. Donc c'est vraiment un scoop que nous vous proposons de chanter avec ce cantique 144, « Jésus sort de la tombe ». Vous pouvez prendre place pour un moment de prière avec une prière du 3e siècle. Ô toi, notre Dieu, bienfaiteur de tous ceux qui se tournent vers toi, lumière de tous ceux qui sont dans les ténèbres, principe créateur de toutes les semailles, jardinier de toute croissance spirituelle, aie pitié de nous, Seigneur, et fais de chacun de nous un temple parfait. Ne considère pas nos péchés, car si tu prenais garde à nos fautes, nous ne pourrions plus soutenir ta présence. Mais par ta véritable miséricorde, par ta compassion infinie, tu effaces nos fautes, tu combles nos manques. Par notre Seigneur Jésus-Christ, par ton unique enfant très saint, par le médecin de nos âmes et par le témoin de ta parole créatrice, par lui te soit rendue toute gloire, puissance, honneur, magnificence, dans les âges des âges qui ne vieillissent ni ne finissent. Amen. Et puis nous pouvons avoir maintenant un moment d'offrande, un moment où nous pouvons partager effectivement une part de nos biens en louange à ce Dieu qui nous donne la vie. Avant de pouvoir chanter donc le cantique numéro 150, « À toi la gloire » que tout le monde attend, eh bien nous pouvons nous ouvrir à cette parole de bénédiction qui est quelque chose que nous pouvons recevoir dans l'intimité de notre cœur comme une dynamique qui nous ressuscite. Car oui, d'âge en âge, l'Éternel bénit et garde chacune et chacun d'entre nous. L'Éternel fait resplendir sur chacun sa lumière, donnant une autonomie, donnant une capacité à avancer sur la route qui est la nôtre. Oui, l'Éternel lève son visage vers nous et nous donne la paix que le Christ donne et que le monde ne peut donner. À toi la gloire.